Capucine Mounal, bonjour.
Bonjour.
Et Joël Giraud, bonjour.
Bonjour.
Vous vous opposerez donc sur plusieurs thèmes, l'économie, l'écologie, la santé, l'insécurité, l'agriculture ou encore l'immigration. Mais tout d'abord, une entrée en matière et je vous demanderai une réponse, pas plus de 30 secondes. Et c'est Johan qui va ouvrir justement ce débat.
Oui, avec un petit retour sur le scrutin de dimanche. À tous les deux, quelle analyse faites-vous des résultats du premier tour? Et comment envisagez-vous le second dimanche prochain?
Et par tirage au sort, c'est Joël Giraud qui commence pour Ensemble.
Alors, en 30 secondes, un exercice compliqué. Il y a déjà ce que l'abstention, effectivement, a des niveaux assez importants pour un département comme les Hautes-Alpes, même si c'est un peu moindre qu'au niveau national. Donc, un résultat qui est un résultat compte tenu de, j'allais dire, le vent en poupe qu'avait le NUP sur la France, d'ailleurs, et sur notre circonscription qui était attendue, mais une avance d'une dizaine de points, enfin de 9 points pour être précis, qui permet d'aborder ce second tour, non pas sans risque, je le dis très clairement, mais avec la sérénité d'un vrai débat de société qui peut avoir lieu sur notre territoire. Je pense que c'est une bonne chose.
Capucine Mounal, votre analyse par rapport à ces résultats et l'abstention?
Oui, alors déjà nous sommes au second tour avec un très bon score, ce qui est déjà une première victoire. Et voilà, donc ensuite pour les résultats par exemple de M. Giraud, il y a 5 ans il a quand même perdu 2000 électeurs et c'est pas dit qu'il puisse gagner pour la prochaine fois. Donc il est quand même passé de 44% à 38% et la gauche est montée jusqu'à 30%.
Alors l'abstention, hein, on en parlait, hein, 46% des électeurs qui ne se sont pas déplacés aux urnes. D'ailleurs ça peut poser une autre question, Claudine.
L'abstention du premier tour au présidentiel était de 28,3%. Il est de près de 48% pour les Hautes-Alpes, pour ces législatives, et de 52% au niveau national. Les abstentionnistes représentent donc le premier parti de France. Est-ce que ça pose véritablement la question de la légitimité des candidats qui seront élus?
Joël Giraud.
La légitimité, non, parce qu'en droit, ils ne sont pas illégitimes. Cela étant, on est sur une logique, effectivement, où il faut, faire en sorte que cette abstention devienne la plus basse possible. Et c'est vrai que moi qui suis un militant de la reconnaissance du vote blanc, je pense que ça fait partie des solutions. Il y a peut-être une autre solution, mais il faudrait pour cela que les parlementaires soient moins pris à Paris. Ce serait de faire, plus de territoires et plus de réunions sur le territoire, de réunions citoyennes. Malheureusement, quand pendant 5 ans, on a des responsabilités, c'est vrai qu'on est libre que le dimanche, ce qui n'est jamais le meilleur jour pour essayer de faire cela. Mais je pense qu'il faut changer un peu de logiciel sur la façon dont on explique la politique publique aux citoyens. Ils ne s'abstiennent pas au municipal parce qu'ils voient les choses concrètes. Aux législatives, on a toujours des taux d'abstention qui deviennent en plus de plus en plus importants. Je crois qu'il faut qu'ils comprennent aussi que les législatives sont aussi importantes que les présidentielles.
Capucine Mounal, est-ce qu'on peut être un député mal élu? Au niveau de la légitimité.
Sur la légitimité, eh bien... Moi, c'est pas la question que je me poserais, c'est plutôt pourquoi en fait on désintéresse de plus en plus les gens. Et en fait, pour moi, le constat, c'est que tout est fait pour leur donner raison aux abstentionnistes, puisque rien n'est fait au niveau local. Donc, M. Giraud dit qu'il faut changer de logiciel. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc, pour moi, en fait, la Ve République, elle a montré qu'elle est en fin de parcours, en fin de système, et il faut changer, instaurer le RIC, instaurer la Sixième République, donner plus de pouvoir aussi au Parlement, et faire en sorte que les procédures comme le 49-3 soient supprimées.
En 30 secondes, si vous deviez commenter le projet de votre adversaire du second tour, que diriez-vous, Joël Giraud? 30 secondes.
Bien sûr, on en reste au niveau national. Je pense que c'est un projet qui, avec 300 milliards d'euros non financés, aura forcément des conséquences sur la fiscalité de l'ensemble des citoyens français. Et qu'au-delà, le soutien à des mouvements communautaristes fait partie des choses qui sont inacceptables pour moi.
Oh, quand même.
Je le dis clairement. Non, mais je le dis clairement parce
c'est
que je suis issu d'un parti laïque et
mais
je resterai
pareil,
un homme parfaitement laïque.
Et vous êtes caricatural,
laïque.
Monsieur Giraud.
Et le soutien à des projets communautaristes
vous
n'est
vous
pas
abaissez,
ma tasse de
monsieur
thé.
Giraud.
Capucine Mounal, alors si vous deviez commenter le projet de votre adversaire?
C'est 8 millions de personnes qui vont à l'aide alimentaire, c'est 17 400 lits qui sont fermés, dont 500 000 pendant le Covid, c'est 24 éborgnés, c'est 5 mains arrachées, c'est 1,9 milliard d'économies sur les chômeurs.
Je ne sais pas qui est Caturale.
C'est 1 milliard d'économies des APL pour les plus pauvres et les étudiants, c'est 10 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. C'est pas fini, il y a aussi 6 millions de mal logés. C'est la réforme chômage, c'est l'inaction climatique et c'est le travail forcé pour le RSA.
On marque une courte pause sur Alpe 1, on va justement commencer à débattre et notamment de l'économie, un débat d'entre-deux tours sur la seconde circonscription des Hautes-Alpes, à tout de suite. Débat d'entre-deux tours des législatives sur cette seconde circonscription des Hautes-Alpes, Capucine Mounal pour la NUP, Joël Giraud pour Ensemble la majorité présidentielle. L'économie et les entreprises, alors personne ne va vous l'apprendre, hein, dans les Hautes-Alpes, le tissu économique est porté par les TPE, les très petites entreprises qui composent 96% du département. Face à ce chiffre, il y en a un autre, le taux de création, il est de 10% selon l'INSEE dans les Hautes-Alpes, c'est moins que la moyenne nationale, la moyenne qui est à 13%. Mais il y a eu la crise sanitaire, avec elle une inquiétude que cette relance ne soit pas forcément durable. Alors comment on assure aux TPE et aux PME une relance durable? Et on inverse cette fois, c'est Capucine Mounal pour la NUP qui va commencer. Madame Mounal.
Alors déjà, je tiens à préciser que nous avons un programme qui est chiffré. Donc toutes les données, elles sont accessibles à tout le monde sur YouTube. Donc il y a une entrée, une sortie pour chaque mesure. Ce qui n'est pas le cas des autres programmes, il me semble. Donc nous, pour l'économie, on veut injecter ces 200 milliards pour la bifurcation écologique. Donc justement, l'idée, c'est de aider les petites et toutes petites entreprises et moyennes entreprises à commencer cette bifurcation, donc nous les accompagnerons. Il faut aussi une fiscalité progressive pour les toutes petites et moyennes entreprises. En fait, c'est redonner aussi un état stratège, c'est soutenir aussi l'économie sociale et solidaire qui, ici, surtout dans les Hautes-Alpes, représente un emploi sur cinq, et développer les nouvelles formes d'économie. Il faut aussi, nous, ce que nous mettrons en place aussi, c'est 300 000 emplois dans l'agriculture locale, écologique, à échelle humaine, des aides à l'installation et l'exploitation agroécologique. C'est le développement aussi des services publics qui
seront... On va en parler de l'agriculture, on va en parler des services publics. Je ressens la question sur les TPE et les PME. Comment on assure une relance durable? Comment on fait en sorte que le taux de création monte et qu'il n'y ait pas autant d'entreprises qui mettent la clé sous la porte?
Il faut les accompagner. Alors déjà, les entreprises qui ont mis la clé sur la porte, ils n'ont pas forcément été bien accompagnés durant ces 5 ans. À chaque fois, en fait, il y a eu des petites mesures. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment un investissement massif de 200 milliards. C'est quand même pas rien.
Mais pour les accompagner. Mais vous trouvez où ces 200 milliards?
C'est simple, on va prendre l'argent là où il est. Donc ça allait taxer les grands patrons du CAC 40. C'est aussi la politique que nous choisissons, c'est de faire la chasse aux paradis fiscaux et faire en sorte que les grandes entreprises puissent payer. Et il y a aussi un système de péréquation entre les entreprises. Donc c'est les grosses entreprises qui peuvent aussi aider, soutenir les toutes petites et moyennes entreprises.
Joël Giraud, pendant 5 ans, vous avez mis en place des mesurettes?
Écoutez, moi j'en ai pas l'impression parce qu'on a quand même largement transformé l'économie, notamment pendant 3 ans, j'étais rapporteur général du budget et on a fait en sorte qu'il y ait effectivement moins d'impôts, notamment sur les TPE
et les PME. C'est moins d'impôts, c'est moins de services publics.
Non, ça n'est pas du tout ça. Ça n'est pas du tout ça parce que lorsqu'on relance l'économie, eh bien l'économie ensuite va mieux. La meilleure preuve,
vous faites des économies sur la population,
en est aujourd'hui qu'il y a un taux de chômage dans ce pays qui est le même taux de chômage qu'il y a 15 ans, c'est-à-dire que le taux de chômage a baissé considérablement alors qu'il y a eu la crise.
C'est des emplois précaires.
Donc,
qui sont développés,
monsieur
Giraud.
Ce ne sont pas des emplois précaires.
Ce sont des emplois précaires. Combien de CDD comparés à des CDI? Combien de CDD comparés à des CDI?
C'est que nous trouvions des salariés qui acceptent de travailler.
Payé à combien?
Écoutez, moi, quand j'ai lancé par exemple le plan Avenir Montagne, je suis allé voir Domaine Skiable de France et je leur ai demandé de faire en sorte qu'on améliore la situation des gens dans les remontées mécaniques. Et ils ont proposé une augmentation de 10 à 20%. C'est aussi une réalité, ça. Donc je crois que la mesure la plus importante, c'est de faire en sorte qu'il y ait aussi des commandes publiques. Et les commandes publiques ou les commandes parapubliques, elles sont importantes dès lors qu'on lance un plan comme le plan Avenir Montagne que je veux pérenniser. C'est 650 millions d'euros. Alors c'est pas 200 milliards, mais c'est 650 millions d'euros ciblés sur un territoire comme celui-là pour faire en sorte que justement l'économie touristique soit une économie plus résiliente, parce que c'est vrai qu'il faut arrêter de faire des remontées mécaniques là où il n'y aura pas de neige, on est tout à fait d'accord. Est-ce que je suis candidat à quoi?
Je vous demande si vous êtes candidat pour les conseils départementaux ou si vous êtes candidat à la
Je suis candidat, j'ai toujours été membre du Conseil national de la montagne et j'étais le ministre en charge de la ruralité et de la montagne. Donc permettez-moi de connaître bien l'économie de ce territoire et de vous dire qu'aujourd'hui, lorsque l'on aura ce plan de résilience de 650 millions d'euros qui sera pérennisé, et c'est ça qu'il faut faire, nous arriverons à avoir des niveaux de commandes publiques importants dans ce département. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait un employé en face de chaque emploi qui est proposé. Et le gros problème des entreprises dans le département des Hautes-Alpes, c'est d'avoir aujourd'hui un vivier de salariés, ce qu'ils n'ont pas forcément, d'où des mesures qui sont effectivement des mesures de modification de l'assurance chômage.
Alors justement, quand on parle de ce manque de main-d'œuvre, peut-être cette question, Johan, avant de parler salaire.
Et oui, parce que effectivement, le département des Hautes-Alpes est soumis à une économie touristique, avec des stations de sport d'hiver, avec de l'agriculture, avec du BTP. Comment faire en sorte que toutes ces activités trouvent leur main-d'œuvre avec un taux de chômage qui est inférieur à moins de 7% au quatrième trimestre 2021, selon les données provisoires de l'INSEE.
Joël Giraud.
Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe à quelque chose qui est la réalité de la pluriactivité. On n'a pas assez de groupements d'employeurs dans le département des Hautes-Alpes. Il y a énormément de groupements d'employeurs qui se sont créés sous forme associative, il y en a qui relèvent d'ailleurs de l'économie sociale et solidaire et qui fonctionnent très bien. Il faut qu'on arrive à articuler de manière plus importante ce qui est aujourd'hui une saisonnalité qui est raccourcie. La saisonnalité neige, par exemple, elle est passée à 3 mois, 2 mois dans certains cas. Donc il faut qu'on arrive à avoir ces groupements d'employeurs qui permettent d'avoir des salariés qui sont des salariés pluriactifs, et je crois que c'est la bonne solution pour ce département. Sur ce plan-là, les textes ont été modifiés sous la mandature précédente. J'espère que nous arriverons avec aussi, et je le dis, la réforme de l'assurance chômage, parce qu'il faut aussi que nous modifions des points qui sont les points justement relatifs à la saisonnalité qui n'ont pas été pris en compte dans la réforme de l'assurance chômage. Mais pour autant, il faut que nous arrivions à faire en sorte que nous n'ayons pas aujourd'hui un salariat qui soit un salariat, j'allais dire, qui rémunère moins que l'assurance chômage lorsqu'il y a des gens qui sont au travail versus des gens qui ne sont pas au travail. Voilà, la réalité, elle est aussi ça, et je crois que c'est important de le dire, tout en modifiant les règles, je le répète, pour les salariés qui sont des salariés du secteur saisonnier.
Capucine Mounal, cette question justement de manque de main-d'œuvre et de chômage.
Alors du coup, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait une augmentation du SMIC ? Est-ce que vous êtes d'accord aussi pour supprimer cette réforme du chômage qui impacte aussi les saisonniers de notre territoire ?
Je ne suis pas d'accord pour supprimer la réforme de l'assurance chômage. Je suis OK pour l'améliorer, et l'améliorer en prenant en compte les saisonniers, parce que la règle des 6 mois pose un problème pour les saisonniers, et ça n'a pas été vu. Voilà, c'est de manière très claire. En revanche, je suis favorable effectivement à ce que le travail les salaires liés au travail rémunèrent plus que le chômage. Voilà, parce qu'on est arrivé à une situation où si on veut atteindre le plein emploi, ce sera à ce niveau-là, et je vous prie de croire que les entreprises, à l'heure actuelle, souffrent énormément de ne plus avoir de salariés.
Donc vous êtes en désaccord avec votre propre gouvernement. Avec ce que fait le gouvernement aujourd'hui,
J'ai toujours été libre. Je suis le rapporteur général qui a fait 1500 amendements par an pour modifier les règles qui étaient les règles fixées par le projet de loi de finances. Moi, je suis un homme libre, je suis dans la majorité, je suis loyal. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord à 100% avec quelque chose.
Vous êtes quand même en désaccord sur pas mal de choses avec le gouvernement.
Je crois que l'avantage d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir eu des gens qui sont à la fois des gens de centre-droit et des gens de centre-gauche. J'appartiens à cette catégorie des gens de centre-gauche.
Alors Capucine Mounal, est d'accord avec vous.
Capucine Mounal, vous, que proposez-vous justement ?
Alors pour moi, il me faudrait que les emplois soient plus attractifs, donc augmenter le SMIC d'un côté et faire en sorte aussi que la fiscalité, elle soit plus progressive pour les entreprises. Déjà, ça serait une première chose. Ensuite, il faudrait sortir aussi de la dépendance du tourisme, donc du tourisme tout ski, et faire un tourisme 4 saisons. Et ensuite, il faut aussi développer...
C'est le plan Avenir Montagne que j'ai développé.
Oui, mais j'ai rien dit contre le plan Avenir Montagne, Monsieur Giraud.
Je signale simplement.
Oui.
C'est une recherche en paternité.
D'accord, vous avez besoin de reconnaissance, monsieur.
Mais en tout cas, pour certains secteurs, et notamment le BTP aussi, qui souffre de manque de main-d'œuvre, Capucine Mounal.
Excusez-moi, vous pouvez reformuler votre question.
Pour le BTP qui souffre aussi d'un manque de main-d'œuvre, qu'est-ce qu'on propose ?
Pour le BTP, pour moi, en fait, il faut aller vers aussi l'emploi de la bifurcation écologique. C'est une nécessité aujourd'hui, le climat, et c'est aussi une nécessité aujourd'hui de réduire l'empreinte que l'homme peut avoir sur la planète. Donc nous, ce que nous voulons, c'est de créer de nouveaux emplois dans le BTP avec de nouvelles méthodes. Donc Monsieur Philippot a écrit une partie de ce programme sur
Michel Philippot, candidat sur la première circonscription pour la NUP.
Voilà, sur la terre crue. Il y a d'autres modèles aussi à développer. Et pour, encore une fois, pour que les entreprises elles puissent aussi embaucher, encore une fois, c'est d'augmenter le salaire.
Alors,
juste ça. Ça semble être une mesure assez simpliste, mais qui est très efficace. C'est aussi augmenter le niveau de vie de la population. C'est aussi faire en sorte que la population soit bien logée dans les Hautes-Alpes. C'est pas le cas. Trouver un travail et pas trouver de logement derrière, c'est compliqué. Et il y a aussi développer les transports. Et
justement, cette question, Claudine, par rapport au salaire qu'on a commencé à amorcer.
Oui, donc la problématique du salaire a été posée. Le SMIC, certains le voient effectivement jusqu'à 2000 euros. Pour vous, donc, quel est le bon niveau du SMIC? Et est-ce qu'enfin l'augmentation de ce salaire, c'est le seul sur lequel l'État a un réel pouvoir, le reste non? Est-ce que ça va agir de façon mécanique sur l'augmentation des salaires des métiers de deuxième ligne ou au contraire, l'augmentation du SMIC va-t-elle précariser, je dirais, les autres salaires?
Capucine Mounal.
Alors déjà une petite précision, vous parlez du SMIC, alors qu'aujourd'hui c'est le SMIC, voilà.
Excusez-moi, j'ai peut-être mal prononcé, c'est le SMIC.
Donc qui est basé sur la croissance, mais moi je serais pour aussi revenir sur le SMIC, et pas forcément sur le SMIC. Eh bien, pour moi, en fait, augmenter le SMIC, c'est aussi augmenter le pouvoir d'achat des salariés et c'est aussi faire en sorte que les entreprises, elles puissent aussi remplir leurs commandes. Parce que dès qu'on part des besoins de la population et de la consommation, il y a l'économie qui repart.
Et pour les métiers de deuxième ligne?
Pour les métiers de deuxième ligne, si on augmente le SMIC, il y a le taux horaire de toute façon qui augmente pour tout le monde. Et ensuite, nous, ce qu'on veut proposer, c'est aussi une sorte de conférence sur le salaire avec les différents acteurs.
Avec les partenaires sociaux?
Les partenaires sociaux, oui.
Et comment vous pouvez forcer une entreprise à payer plus, et notamment les TPE et les PME qui ont déjà du mal avec leurs charges?
Alors, à payer plus quoi?
À payer plus leurs salariés.
Eh bien, si on part de payer le SMIC, ça veut dire que les gens, en fait, ils seront en capacité d'acheter les produits. Et même s'il y a une augmentation, parce qu'ils vont reporter le coût, c'est ce que vous voulez dire, sur leur marge pour qu'ils puissent avoir des bénéfices et se payer eux-mêmes. Eh bien, si on part du SMIC, les gens, en fait, ils ont un pouvoir d'achat qui augmente. Et si le pouvoir d'achat, il augmente, l'augmentation des prix, ça ne sera pas forcément un problème parce que elle se fera sur, ça se lissera, en fait, avec toutes les entreprises. Et les commandes, elles seront remplies, quoi qu'il arrive.
Donc, pour vous, on parle de politique de salaire. Donc, pour vous, l'augmentation du SMIC fait que, automatiquement, les autres salaires vont suivre.
Oui.
Parce que sur ça, l'État n'a pas de prise sur les autres salaires.
Sur les autres, ben, en fait, il faut avoir une discussion justement avec les acteurs sociaux pour justement leur démontrer que l'augmentation du SMIC, ça peut être une bonne chose pour eux. Et il peut aussi avoir des négociations sur les autres charges qui pèsent sur eux. Pour ça, en fait, il faut vraiment une concertation avec eux et faire en sorte qu'ils... c'est juste une question de pédagogie, en fait. Et de concertation et de dialogue avec les acteurs sociaux. Et voilà.
Joël Giraud, c'est une question de pédagogie.
Je crois qu'au-delà de la pédagogie, enfin, vous l'avez bien souligné, on est sur des secteurs où, de toute façon, mis à part le salaire minimum interprofessionnel de croissance, on ne peut rien fixer. Si on ne peut rien fixer, il faut tout simplement qu'il y ait un dialogue par branche avec les différentes entreprises, et j'allais dire par branche et par également secteur territorial, parce que c'est pas tout à fait la même chose, j'allais dire, d'être hôtelier-restaurateur à Paris, à être hôtelier-restaurateur, par exemple, dans les Hautes-Alpes. Et on y arrivera comment? On y arrivera en continuant ce qui a commencé à être fait, c'est-à-dire avec une baisse des charges vis-à-vis des PME et des TPE, c'est-à-dire des gens les plus fragiles. Parce qu'à ce moment-là, le dialogue qui va s'instaurer est un dialogue qui est un dialogue positif, c'est-à-dire que on peut regarder une augmentation qui est une augmentation globale des salaires au regard des charges qui elles-mêmes sont des charges qui sont diminuées pour l'entreprise. Sans ça, les entreprises, les PME notamment et les TPE, n'y arriveront pas. Enfin, on connaît la fragilité d'un certain nombre de secteurs. Bon, je connais bien les gens qui travaillent dans l'hôtellerie-restauration. Je regrette que l'Union des métiers de l'industrie hôtelière n'ait pas eu le même courage, par exemple, que tout à l'heure je citais Domaine Scap de France, c'est-à-dire d'avoir un dialogue fructueux avec l'ensemble des entreprises qui dépendent de son secteur pour avoir quelque chose de plus, j'allais dire, de plus valorisant pour les employés, et notamment en termes de formation, et en formation aux langues étrangères en particulier. Mais bon, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'en baissant les charges, nous arrivions à faire en sorte que ces entreprises deviennent viables et que l'augmentation soit une augmentation pour laquelle il y aura une négociation, il y a un Grenelle qui est possible de l'ensemble des salaires, mais pour autant, l'imposer, on n'est pas dans une économie dirigée. Donc, nul ne peut imposer dans une économie qui est une économie ouverte ce genre de choses à l'ensemble des entreprises de France. Sans ça, toutes les entreprises seraient des entreprises publiques.
Joël Giraud, Capucine Mounal, à l'instant T, si les entreprises avaient la possibilité d'augmenter les salaires, elles le feraient.
Je le pense également, puisque d'ailleurs ça s'est fait, puisque moi j'ai eu un dialogue avec quelqu'un il y a très peu de temps, justement sur le problème de la restauration, qui a proposé des augmentations de 20% de salaire, mais qui n'a pas pu les trouver, et qui s'est fait planter, je vais dire très, très clairement, parce que ils ont formé pendant 2 ans des personnes, et qu'en sortie de Covid, avec le chômage partiel qui a été un sauvetage pour l'ensemble de l'économie française, dont n'ont pas bénéficié notamment des États européens comme l'Italie, eh bien, il s'est aperçu que finalement, il gagnait la même chose, ou peu ou prou, en restant chez soi. Donc, c'est effectivement une réforme conjointe des charges patronales, mais également de la problématique qui est aujourd'hui la problématique de l'assurance chômage. Je suis désolé de revenir là-dessus, mais on ne peut pas avoir le même regard sur l'assurance chômage lorsqu'il y a un chômage massif où il faut protéger massivement les citoyennes et les citoyens, et lorsqu'il y a un chômage qui est devenu un chômage beaucoup plus réduit, où il faut relancer la machine économique pour aller vers un plein emploi. Et quand il y a plein emploi, il y a plus de cotisations, qu'elles soient salariales, sociales et patronales. Et je dirais, la machine économique fonctionne mieux. C'est ce vers quoi nous voulons tendre. C'est effectivement un modèle de société qui n'est pas tout à fait le même que celui qui est prôné aujourd'hui par ma concurrente.
Capucine Mounal, si les entreprises pouvaient augmenter les salaires, elles le feraient?
Si on leur donnait les moyens, s'il y avait un accompagnement, je pense que oui, puisque la preuve, M. Giraud nous en a donné un exemple, une personne qui voulait augmenter de 20% le salaire. Après, c'est pas une augmentation de 20%, le salaire, c'est 1 500 €, ça représente 15%. Donc déjà, il y a une petite différence, mais quand même notable. Et là, en fait, la politique que propose M. Giraud, c'est une politique du en même temps. Donc c'est favoriser encore une fois la précarité. Oui, c'est votre marque de fabrique, mais ça marche pas en même temps, Monsieur Giraud. Et pour moi, en fait, ce que j'entends, c'est
on développe
la précarité des employés, des salariés, les saisonniers. Aujourd'hui, ils sont tiraillés de tous les côtés. Ils en peuvent plus. Ils peuvent pas avoir accès au logement. Ils n'ont pas accès à la santé. Et Vous allez voir les entreprises, mais il faut aussi aller voir les salariés. À un moment donné, nous, ce qu'on demande, c'est que les gens ils puissent aussi vivre dignement. Et c'est pas grand-chose, en fait.
Rassurez-vous, je vois les deux, quand j'arrive dans une entreprise.
Alors, le vivre dignement, justement, ça mène au pouvoir d'achat. Selon plusieurs sondages, le pouvoir d'achat est en tête des préoccupations des Français, d'autant qu'il y a une inflation galopante. En avril dernier, elle est à 4,8%. C'est un niveau qui est inégalé depuis 37 ans, selon l'INSEE. Et puis, en parallèle, il y a le niveau de vie sur la seconde circonscription des Hautes-Alpes. En 2019, 13,6% de la population avait un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. C'est tout de même moins qu'au niveau national, à 14,5%. Et cette question, Claudine?
Alors, depuis la crise sanitaire, effectivement, l'État distribue largement les chèques, les aides et de toutes sortes, et à peu près pour tout. La crise internationale semble, la crise Covid est passée, mais la crise internationale semble partie pour durer. Donc, jusqu'à quand l'État va-t-il pouvoir soutenir ces aides? Et du coup, on ne parle plus non plus de l'endettement.
Joël Giraud, alors cette méthode de quoi qu'il en coûte?
Le quoi qu'il en coûte, effectivement, il a quand même fait ses preuves, parce que sans ça, ce pays se serait effondré. Et là aussi, ce n'est pas par hasard que l'économie se porte beaucoup plus mal en Italie et beaucoup plus mal en Allemagne, pour citer deux pays qui ont des économies très différentes, mais qui ont quand même, j'allais dire, beaucoup morflé pendant la crise. Bon, donc, le quoi qu'il en coûte, pourquoi avons-nous pu le mettre en œuvre? Tout simplement parce qu'il y a eu une prise de conscience, l'Europe est devenue vraiment politique, et l'Europe a pris en charge 75% de cette dette. Ce qui veut dire qu'on a assumé 25% de la dette du quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, moi j'étais il n'y a pas très longtemps encore sur les travaux de la présidence française de l'Union européenne, nous étions sur un plan qui est important pour tous les États européens, qui est un plan de relance, qui était relance par la consommation au regard tout simplement bien du coût des matières premières qui a connu une inflation qui est absolument surréaliste. Alors on le comprend lorsqu'il s'agit de produits à place de blé parce que l'Ukraine est le grenier à blé de l'Europe. On le comprend lorsqu'il s'agit d'une crise sur les énergies fossiles, ce qui prouve aussi qu'il faut de temps en temps s'en séparer un petit peu progressivement, sans ça on va pas s'en sortir. Mais le plan de 20 à 25 milliards que nous allons proposer, qui est un plan qui sera la première loi du quinquennat, est une loi qui va être importante parce qu'elle va être aussi négociée au niveau européen de façon à ce que tous les pays d'Europe puissent avoir la même logique, j'allais dire, avec une logique là encore territorialisée. J'insiste beaucoup là-dessus parce que le prix de l'essence et son augmentation, c'est pas la même chose lorsqu'on fait du domicile-travail à Paris en métro et lorsqu'on fait du domicile-travail dans les Hautes-Alpes entre Briançon et Gap, par exemple. Donc il faudra effectivement qu'il y ait des parlementaires de territoire pour bien faire en sorte que cette loi, qui est un coût de 20 à 25 milliards d'euros, puisse bénéficier aux ménages partout sur le territoire de manière équitable, parce que nous ne sommes pas forcément dans une situation équitable. On ne peut pas prendre des trains toutes les 15 minutes cadencés sur la ligne ferroviaire, ni des bus cadencés à 15 minutes.
Donc ça veut dire qu'on oublie la dette?
Ça veut dire que la dette, l'Europe a fait son deuil de le fameux 3% du PIB parce qu'il y a une situation de crise. Je crois que quand je disais que l'Europe est devenue une Europe politique, moi ça me convient parfaitement. L'Europe a laissé de côté un certain nombre de règles d'or de mécanismes budgétaires qui nous enserraient, je dirais, de manière trop mécanique et de manière, on va dire, plutôt économiquement virtuelle, je dirais, par rapport à la situation du pays. On s'en est effectivement débarrassé, ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi. Il y a une nuance entre avoir une dette qui est mutualisée, comme je le disais tout à l'heure, à 75% par l'Union européenne lorsqu'il s'agit du quoi qu'il en coûte, et une dette qui serait à 100% sur le budget de l'État, à 300 milliards d'euros. Ça n'est pas du tout la même chose.
Dans la durabilité ?
Mais dans la durabilité, je pense que c'est pour passer un certain nombre de caps et ensuite pour revenir à quelque chose qui est quelque chose de plus stable. Et je pense en particulier au niveau d'emploi, parce que quand il y a employabilité, je le répète, et quand il y a moins de chômage, voire plus du tout de chômage, ce vers quoi nous voulons tendre, eh bien il y a des cotisations qui rentrent, on se retrouve dans une situation qui est plus vertueuse sur le plan économique, et puis permet de voir l'avenir avec une dette qui, certes, n'est plus sur la règle des 3%, mais qui est une dette qui est quand même raisonnable, parce que sans ça on ne peut pas passer sa vie à s'endetter. Voilà, c'est comme dans un ménage, c'est comme chez les particuliers.